le travail, voilà le travail auquel je me suis consacré et auquel nous nous consacrons en général. Est-ce que ça nous apporte quelque chose? Est-ce que ça nous a révélé quelque chose? Généralement, oui. Oui, oui, même s'il y a des différences dans nos appréciations, on est presque tous d'accord. Par exemple, ça, c'est même, on peut dire, tous d'accord, et depuis 2000 ans, Aristote ou Jean-Luc le disaient déjà, nous sommes persuadés qu'il y a trois grandes tendances, par exemple. Il y a trois grandes tendances qui sont les manières dont l'homme approche la réalité. Ou bien il croit qu'il peut connaître les choses, donc il y a une vertu de vérité qui est derrière tout ça, et que s'il atteint cette vérité, tout sera clair pour lui, son cerveau sera débarrassé de toute maladie, de tout déséquilibre. Et en somme, il lui faut apprendre, il lui faut s'éduquer, il lui faut connaître. Et c'est tout un ordre de sectes, de sociétés secrètes, de religions aussi, qui se sont consacrés à cette recherche, à cette ouverture de l'esprit. Alors, ce sont des peuples qui croient dans le serpent, qui croient dans la lune, qui croient dans la pluie, dans l'eau, si je parle d'il y a 5 ou 6 000 ans. Et puis, ils continueront de croire dans le serpent, mais ils l'appelleront quoi? Non, ils l'appelleront le Sefer, ou le bâton serpent, ou le serpent des reins de la Bible, ou l'Hermès Trismégiste, ou le Mercure aux deux serpents, ou le serpent qui est à la vitrine de nos pharmacies, c'est ça? C'est la connaissance qui est là derrière ces deux serpents. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette continuité? Ben parce que ce mythe-là, le mythe de connaissance, de croyance, de vérité, acharne les hommes. C'est une manière pour les hommes d'approcher ce qui existe. Mais il y a une toute autre ordre de recherche qui ne cherchera pas à connaître le monde, qui dira le monde, on le connaîtra jamais, mais nous sentons en nous, dans notre cœur, dans notre âme, le besoin de faire le bien, d'être gentil avec les autres, d'être charitable, d'être apitoyé. Et ceux qui croiront ça, ceux qui iront dans le sens du bien, ne croiront pas en un dieu serpent qui entoure le monde, comme les autres, ils croiront en... L'écriture des imitations de Jésus-Christ au Moyen-Âge est fondée sur cette croyance essentiellement que le croyant, le fidèle, le mot fidèle le dit, c'est celui qui est fidèle à son dieu. C'est-à-dire qui est fidèle à... C'est le reflet fidèle du modèle extérieur, du modèle qui lui a donné sa forme et qui lui a donné sa forme semblable à lui, que Dieu a fait l'homme semblable à son image, etc. C'est cette croyance-là. Et évidemment, ces sectes seront des sectes, disons, morales, des sectes très caractéristiques qui demanderont une soumission, généralement. Quelquefois une dialectique entre le bien et le mal, et ceci est bien, ceci est mal. Le marxisme est une morale d'abord, c'est l'attente du bien, c'était pas la vérité qui est attachée Karl Marx, c'était le bien, c'était atteindre à une entraide, à une fraternité plus grande, une communauté entre les autres. Mais il y a encore une troisième sorte de société qui est tout à fait différente des deux premières, qui ne cherche pas la vérité, qui ne cherche pas le bien, qui cherche le beau, c'est-à-dire l'harmonie de l'univers. Ceux-là ne pensent pas que Dieu entoure le monde comme un grand serpent, ils ne pensent pas que Dieu est un modèle, un miroir, enfin, dont nous sommes le reflet. Et non, ils ne pensent pas ça, ils pensent que Dieu est quelque chose, c'est généralement un créateur, C'est aussi un souverain, il domine le monde, il le recouvre, il lui impose un ordre, une hiérarchie, l'harmonie des étoiles, l'harmonie des sphères. Il veut la beauté, il veut que l'homme vive dans la beauté et effectivement, les sectes qui croient ça sont souvent des sectes qui vivent à la nature, qui vivent près de l'arbre, près du soleil, et qui sont particulièrement sensibles à l'harmonie d'un champ, d'une colline, d'une montagne, d'une plage sur la mer. Et il y a des sociétés qui ont cherché à ce que l'homme se dépasse, ainsi se dépasse pour servir Dieu, pour être aussi créateur. Pour créer des nombres, créer des pyramides, créer des figures, créer des peintures, des poèmes. Et tout ce qui était bon pour favoriser cette création, cette passion, ben c'était bon, c'était pas bien, hein, c'est bon, c'est-à-dire utile, c'est utile. Ça pouvait être des drogues, ça pouvait être l'alcool, c'était longtemps l'alcool, c'est ce qu'on appelait le soma, autrefois, c'est une sorte du drama, là, en et on sait que les gens s'enivraient, les filles de Noé ont enivré leur père, par exemple. Il y a d'autres exemples. Pourquoi? Ben parce qu'il fallait se dépasser. Et en fait, il y a d'innombrables hymnes d'œuvres antérieures à la Bible, comme le Rig Veda, les vieilles œuvres indiennes, qui vantent, chantent d'habitude, avant tout, la vertu du soma, liqueur, certainement enivrante. On ne sait plus très bien ce que c'était, mais par les effets, on voit bien que c'était enivrant. Puis au Moyen-Âge, il y a eu des saints arabes qui ont commencé à fumer le hashish, on les a appelés les assassins hashashin. Ils sont devenus des assassins parce qu'en réalité, il s'agissait de tuer ses ennemis, de tuer les infidèles, et la drogue était une manière de donner ce courage surhumain, parce que souvent ils étaient tout de suite arrêtés, donc on les condamnait au bûcher ou on leur coupait le cou eux-mêmes, mais ils vivaient ça, comme récemment encore des sectes vietnamiennes, des sectes camisards en France au début du 18e. Tous ces gens ont payé leur vie, leur courage, mais ils l'ont fait pour imposer, pour faire vivre leur pays, pour sauver leur pays, de l'État, de la contrainte de l'État, pour sauver leurs habitudes, leur beauté, la beauté de leur champ, la beauté de leur campagne, la beauté de leur mer, ou de leur fleuve. Et il le payait, mais il le payait. D'abord, ils avaient l'espoir de s'en sortir. Dans beaucoup de ces sectes, la drogue est supposée donner l'invincibilité. Celui qui était enivré, il passait à travers les balles. Excusez-moi. Ceux qui ont eu des grands-parents ou des parents qui ont connu la guerre 14-18. En France, qui pose la question à leurs ancêtres, et ils verront ce qu'on leur dira, c'est que celui qui était ivre, et on donnait son quart on donnait bien sûr son quart de vin aux soldats, mais dans les moments durs, on lui en donnait deux ou trois quarts. Et on en était au fond des gens qui étaient complètement chancelants. Mais on disait, ils étaient convaincus que c'est la chance de l'ivrogne, le dieu de l'ivrogne. C'est un peu cette croyance-là. Celui qui était sous, il passait à travers les balles. Et puis peut-être que... Non, ce n'est pas vrai, il y aurait eu moins de morts, bien sûr. C'était pas vrai. Mais enfin, on le croyait. C'est toujours la même chose. Il y a une drogue, une boisson, un alcool, une danse, souvent, qui crée un vertige, qui crée une hallucination. Et c'est la même chose, c'est pour que l'homme aille au-delà de lui-même. Ben, aille jusqu'où? Ben, à créer le poème, à créer la peinture, à créer le... Vous avez d'innombrables poètes ou peintres qui n'ont vécu que par la drogue. Baudelaire écrit sous l'influence de la drogue, d'autres ce sera sous l'influence du vin, Verlaine c'est sous l'influence de l'absinthe, du Pernod, et puis d'autres c'est... Victor Hugo, dit-on, avait toujours des pommes pourries dans son tiroir parce que il y avait une sorte d'exaltation qui laissait l'odeur de la pomme pourrie. Bon, tout ça, ce sont ça semble des folies, ça semble des choses étranges ou bizarres, mais le résultat, c'est que ça nous a donné de grands poèmes, de grandes peintures, de grandes musiques. Vous voyez combien ces trois sectes sont différentes, ces trois ordres de religion sont différents. Or, ça se suit d'une certaine manière absolument régulière. Régulière. Si vous prenez les millénaires et vous avez eu un moment où les hommes ont cru dans le Dieu vérité, ont cru dans le serpent, dans la lune, dans la pluie, et puis après ils ont cru dans les gémeaux, dans les frères jumeaux, dans le Dieu modèle, le Dieu formateur, comme il disait, qui faisait les reflets, qui faisait le monde à son image. Et puis après, il y a eu les grandes créations du taureau, de Sumer, où l'homme a créé vraiment le langage, a créé le nombre, a créé l'écriture, a vécu pour et dans la création, avec ses drogues, on parlait avec ses passions, ses possessions. Et puis après, ben, on est revenu à une sorte de dieu serpent, de savoir, de connaissance, notamment dans la première justice, la justice, l'orbe qui a retrouvé l'idée du serpent qui entoure le monde, d'accord, le canos, et qui a retrouvé les serpents, le serpent des reins, le serpent bâton, le serpent de Moïse, Séfer, etc. Et puis après, nous retrouvons l'idée d'un dieu modèle, le dieu amour, un dieu qui veut le bien, qui cherche plus la vérité, qui cherche le bien. Et ça a été l'osmose, ça a été les grandes morales chrétiennes, par exemple, ou bouddhistes. Donc, il y a une suite. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça, avec autant de rigueur, si vous voulez, que le printemps précède l'été, que l'été précède l'automne, que l'automne précède l'hiver, et qu'on va revenir à l'année suivante. Alors, bon, une seule conséquence de cela, c'est qu'il n'y a plus de mort, bien sûr. Il n'y a plus de fin de la chose. Il n'y a plus de désastre final, obligatoirement, comme dans la croyance dans le fil. Si un fil continue, ben ce fil, un jour, il cassera. On sait qu'il cassera. Ça, tout le monde meurt. Donc il cassera, donc les systèmes meurent, les croyants, les théories scientifiques disparaissent, les systèmes se succèdent. Un système de Copernic ne doit plus rien à celui de Ptolémée, celui de Kepler ne doit pas grand chose à celui de Copernic, celui de Newton et autres, celui d'Einstein annule Newton, etc., etc. Il faut que ça finisse, tout ce qui a un début a une fin. S'il y a une cause, il y aura une fin. Il y aura la destruction, il y aura l'entropie, il y aura le malheur, ou la fin, simplement la fin, complètement la fin. Mais si le vrai précède toujours le beau qui précède le bien qui précède le beau, etc., ou si l'enfant est avant l'adulte, mais que quelque part l'adulte redevient un enfant, s'il y a tous les ans, plutôt, encore plus exactement, si tous les ans vous avez un printemps, un été, un automne, un hiver, mais ça va se renouveler la saison prochaine. La fin du cycle n'est pas une vraie fin, ce n'est la fin que du cycle, de ce cycle-là.